Depuis le 36, donc, lieu mythique de la police qui va bientôt déménager. Au-dessus de nos têtes, une mezzanine à 3 étages. Au deuxième niveau, un filet anti-suicide qui a été installé depuis que Nathalie Ménigon, c'était en 84, je crois, l'une des meneuses d'Action Directe, a tenté d'enjamber la rambarde pour se jeter dans le vide. Et c'est aussi ici le siège de la maison Poulaga, parce que les poulets, ils viennent d'ici, paraît-il, de ce quartier de l'île de la Cité. Il y avait un coin du quai des Orfèvres qui était un marché aux volailles avant que la police judiciaire s'installe il y a un peu plus d'un siècle. Richard Marlet, puisqu'on est dans le folklore, vous fumez toujours la pipe. Je vous vois avec une pipe en couverture, en photo, au dos de votre livre. Donc il y a toujours la tradition de la pipe chez les commissaires du 36 quai des Orfèvres.
Oui, alors à ce moment-là, je devrais être le dernier exemplaire. Mais non, je crois que la pipe est mon seul vice.
Bon, très bien. Alors, les murs ont vieilli ici, quai des Orfèvres. La tradition de la pipe aussi et du tabac froid peut-être, mais les techniques ont considérablement évolué. On en parle avec vous, Richard Marlet. Une archive d'abord, voici comment, dans les années 50, les actualités filmées présentaient la police scientifique.
Un homme a été abattu dans la nuit. Les inspecteurs ne découvrent qu'un indice bien faible, 2 balles près du cadavre. L'une est en nickel, l'autre en cuir. Il y a donc eu 2 agresseurs. Les services de l'identité judiciaire, aussitôt alertés, vont mener l'enquête. L'étude de la trajectoire sur un mannequin révèle que la victime n'a été frappée que par une seule des 2 balles. Est-ce la balle de nickel qui a tué ou celle de cuir? Quelques heures plus tard, un individu suspect est arrêté. Le fichier consulté révèle que c'est un repris de justice. De plus, il est porteur d'un revolver. Une balle tirée avec cette arme est développée sur une lame de plomb, puis ses empreintes photographiées. L'examen révèle que ses rayures sont identiques à celles de la balle de nickel. Le revolver du suspect a donc tiré la balle meurtrière. Ses alibis ont été réfutés par la science. Le crime parfait n'existe plus.
Et voilà, le crime parfait n'existe plus. C'est formidable, Richard Marlet. Alors, on est avec les techniques de l'époque, donc les empreintes de balles, les loupes, les petits indices qu'on peut trouver. Donc, à partir d'un bouton de manchette, on retrouve la piste du meurtrier. Est-ce que ces techniques-là, elles sont encore vivaces? Est-ce qu'elles existent encore à l'heure de l'empreinte génétique et des experts et des techniques qu'on voit à la télévision?
Ah, si vous voulez, l'idée forte de la police technique et scientifique, de la criminalistique, c'est la comparaison.
Oui.
Donc en fait, là, on a parlé de balistique et la comparaison, c'est j'ai une arme suspecte, je tire avec cette arme suspecte et je compare le projectile avec celui qu'on a retrouvé sur la scène de crime. Et en fait, toute la police technique et scientifique, c'est ça. La différence, et ça c'est fondamental, c'est de dire on va passer de la comparaison de 1 contre 1, c'est-à-dire j'ai une arme suspecte et j'ai une balle retrouvée sur une scène de crime, à la comparaison de 1 contre N. C'est les empreintes digitales. On passe des fichiers manuels à des fichiers informatiques. C'est l'empreinte génétique où on passe de la comparaison entre 2 profils génétiques avec la comparaison j'ai un profil génétique et je l'envoie en comparaison sur une base de données.
Quand vous avez pris le service de l'identité judiciaire, il paraît que c'était quelque chose qui était en piètre état.
Comment vous dire j'ai une maîtrise d'archéologie étrusque. Non, mais c'est vrai. Et en fait, ça fait sourire, mais c'est vrai. Et en fait, j'avais une image, c'était, ça ressemble à Pompéi après l'éruption du Vésuve.
Ouais.
Donc, il y avait, par rapport à la direction centrale de la police judiciaire, on avait 10 ans de retard. Quand je suis arrivé à l'identité judiciaire, j'ai eu la chance d'aller passer une semaine à Scotland Yard. Et là, c'était 30 ans de retard.
Ouais.
Voilà. Donc, la préfecture de police avait à bénéficier de la création de la sous-direction de la police technique et scientifique, donc au milieu des années 80, au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, avec 10 ans de retard, 10 ans de décalage.
Est-ce qu'on peut dire ensuite il y a eu la révolution de l'ADN. Est-ce qu'on peut dire que les empreintes génétiques, ça a révolutionné les enquêtes policières, Richard Marlet?
Ça les a révolutionnées, mais l'erreur, évidemment, ça serait de considérer que la génétique est la reine des preuves. On en a beaucoup parlé à propos de l'affaire Grégory, en fait, sur la génétique. Ce sont souvent des traces de contact. Et vraiment, l'idée forte, c'est de se dire, la police, c'est pas la police scientifique ou la police traditionnelle d'enquête. La police, l'administration de la police, c'est les deux, en fait. La police technique et scientifique toute seule, ça ne veut rien dire. Ça prouve simplement qu'une personne s'est trouvée, une personne bien identifiée, s'est trouvée à un endroit bien précis, mais on n'arrive jamais à dater.
Christian Sainte, directeur de la PJ de Paris, vous aussi, vous avez vu la place grandissante occupée par les investigations, la police scientifique au fil des ans.
Ça a révolutionné dans les années 80. La montée en puissance, ainsi que l'indique Richard, des recherches et des fichiers génétiques, c'est énorme. Ça fait progresser et ça continue toujours à nous aider. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'alternance qu'il y a entre les progrès que fait la science et qui sont déclinés au niveau des métiers de la police, dans toutes ses composantes, et les contre-mesures qui sont mises en œuvre par les malfaiteurs, qui essaient constamment maintenant de s'adapter à nos propres adaptations. Et on voit bien qu'on est toujours obligé, parce qu'effectivement, un individu, un corps humain, laisse des traces partout. Voilà. Et au bout du bout, le malfaiteur, qui sait, parce qu'il a aussi une expérience, et qu'il lit, non seulement il lit la presse, mais il apprend aussi par son propre vécu de criminel, de délinquant, il sait qu'il y a des choses à ne pas commettre, des erreurs à ne pas commettre, et prend des précautions pour ne pas laisser ces traces qui, pour nous, seront essentielles plus tard. Et donc, effectivement, on est constamment en train de chercher la trace la plus infime, la micro-trace qui va nous permettre de nous mettre sur une piste. Et lui, celui qui va commettre ça, le sait et prendra des mesures, des précautions toujours plus importantes pour rendre étanche finalement son action et qu'il n'y ait aucune trace qui permette de l'amener et de le faire identifier. Donc effectivement, oui, pour répondre à votre question, on a besoin de ces outils, mais encore une fois, le flair... les qualités d'un enquêteur, ça reste aussi essentiel. Parce que, comme indique Richard, c'est un élément qui n'est pas décisif uniquement d'amener la preuve scientifique telle qu'on l'idéalise toujours. Hein. C'est un élément parmi d'autres.
Le sens policier, comme disait Frédéric Henry, et les bonnes décisions au bon moment. Alors, Christian Sainte, puisque vous êtes l'un des patrons de la police aujourd'hui ici, je vais demander à ceux qui sont près de vous, Frédéric Henry et Richard Marley, qu'est-ce que c'est qu'un bon... patron flic, quels sont les grands flics que vous avez connus, avec qui vous avez pu travailler dans le passé, qui ont pris les bonnes décisions, qui ont orienté les enquêtes de façon absolument décisive, Frédéric Henry?
D'abord, c'est vrai que ce que je disais, quand j'ai pu intégrer la DRPJ, donc la direction m'a fait confiance et m'a permis effectivement de travailler avec découvrir des formidables équipes. Et j'ai appris mon métier auprès des différents chefs que j'ai été amenée à côtoyer. Tous étaient différents, bien évidemment, mais tous étaient professionnels parce qu'ils n'étaient pas arrivés là quand même par hasard. Certains étaient plus connus que d'autres. Malgré tout, je trouve qu'à leur contact, on apprend énormément et on apprend notre métier, on apprend la rigueur, le travail de police judiciaire, on apprend l'humanité aussi hein, avec les gens avec qui on travaille et c'est notre richesse, ça fait un tout.
Richard Marley, les chefs d'aujourd'hui sont différents de ceux d'hier? Ça évolue de quelle façon ce métier au niveau de l'encadrement?
Non, je ne crois pas qu'il soit différent. Non, mais évidemment, donc, comme moi je suis l'ancêtre du 36 qui est des orfèvres, ou presque. Donc moi, j'ai eu la chance de croiser des personnalités. Et la direction de la police judiciaire était un véritable laboratoire. Enfin, je pense notamment à François Lemoyle, qui crée le concept de BRI, de l'anti-gang. Je pense à Monsieur Ottavioli, Robert Broussard, des gens que j'ai croisés, Martine Monteil, etc., etc. Donc, voilà, ce sont des personnalités fortes. Mais après, il n'y a pas de différence. Je veux dire, les bons chefs sont ceux qui sont attentifs à leurs collaborateurs, qui sont curieux, qui sont attentifs, qui n'hésitent pas à se remettre en question aussi. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont à l'écoute en permanence.
Alors, une autre archive à présent, puisque France Inter est exceptionnellement accueillie dans le sein des saints policiers, il nous faut parler des rapports entre la police et la presse. Parce que j'ai découvert, en travaillant un peu ce dossier, que jadis, les journalistes circulaient librement ici. Il y avait un bureau de presse, et puis on les voyait un peu partout. Il y a même des images de l'arrestation de René Lacanne en 1951, où on voit tous les journalistes agglutinés dans le bureau du patron de la PJ ici. Et puis, tout s'est arrêté en 1984. On va écouter cette archive sur France Inter, à l'époque Philippe Habitboul.
La loi du silence. Désormais, les journalistes et les policiers n'échangeront plus aussi facilement leurs informations. Les journalistes sont interdits de séjour au 36 quai des Orfèvres. La décision a été prise par le préfet de police de Paris, Guy Fougier. La presse a protesté contre ce bâillon qu'on lui impose. On attendait la réaction de Gaston Defferre. Monsieur Defferre est intervenu ce soir sur Antenne 2.
De très mauvaises habitudes avaient été prises. Un exemple. Le soir, nous sommes allés avec le président de la République visiter la préfecture de police. Un policier interrogeait un trafiquant de drogue. Il y avait là une jeune femme. J'ai demandé au policier qui était là qui était cette jeune femme, qui me paraissait bien jeune pour être un policier d'un grade qui justifiait sa présence. On m'a répondu non, ce n'est pas un policier, c'est une journaliste. Les policiers étaient dans les bureaux, les journalistes étaient dans les couloirs. Et vous l'avez constaté, les fuites se répétaient.
Voilà, c'est l'affaire des fuites dénoncée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gaston Defferre, affaire des fuites qui avait provoqué d'ailleurs la chute d'un patron ici, d'un commissaire, c'était Jacques Gencial, qui a été remercié, et ça avait provoqué beaucoup de remous et de scandales. Vous vous souvenez de cette époque, Richard Marlet ?
Ben je me souviens de cette époque, oui, où, évidemment, je vais devenir la référence historique.
Enfin, ben c'est écoutez, c'est...
Quelque part, enfin, dans un contexte de jeunisme, je fais figure d'exception.
Oui, c'est,
donc oui, j'ai connu cette époque avec les journalistes. Alors, ils n'étaient pas chez eux.
Oui.
Mais voilà, les échanges étaient quotidiens et en fait, il y avait quelque chose qui se passait, c'est-à-dire que la notoriété aussi du 36 qui est des Orfèvres, c'est peut-être la coïncidence entre des grands flics, des grands voyous et puis des caisses de résonance, la presse. Donc c'est peut-être ça aussi qui a joué dans la notoriété du 36 qui a des Orfèvres.
Puisqu'il faut le rappeler, toutes les grandes affaires criminels ont convergé ici, et même les affaires aussi politico-criminelles. La déesse mitraillée du général de Gaulle au Petit Clamart, elle est apparue, elle a été montrée dans la cour ici, juste en bas du 36, et lors de la disparition de Ben Barka, l'opposant marocain, évidemment. Bien ce sûr. Sont des enquêteurs du 36 qui ont sûr. Commencé à travailler. Tout ce poids historique, Christian Sand, vous y pensez encore souvent là pour les dernières semaines, les derniers mois que vous avez ici à faire dans ce bâtiment historique.
Non, c'est clair. Mais ceci étant dit, vous l'avez posé cette question, l'environnement a changé et la pression médiatique, elle existait par l'archive que vous nous avez fait écouter à l'instant. Mais on sait tous ici qu'elle s'est encore augmentée et que la multiplicité des réseaux d'information, l'information directe, qui est celle que vous pratiquez, nous met une pression énorme, nous policiers, sur les enquêtes. Donc techniquement, il faut que nous puissions travailler, il faut que nous puissions garantir la sécurité de nos fonctionnaires qui interviennent. Et en même temps, on voit bien qu'au fur et à mesure que les enquêtes progressent, tout au ressort, ou en tout cas des commentaires apparaissent de ci de là sur ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'il faut qu'on l'intègre, nous, dans la gestion de nos propres enquêtes. Et c'est un environnement que j'essaie de faire passer auprès de vos confrères, de vos collègues. À un moment donné, il faut trouver le juste équilibre entre l'information, qui est légitime, et puis la préservation de nos intérêts dans un cadre qui est quand même très prévu, puisque théoriquement, les fonctionnaires ne parlent pas de leurs enquêtes. Absolument. On est tenu au secret de l'enquête.
C'est le parquet qui peut éventuellement communiquer. Dernière évolution, évidemment, et on s'en voudrait de ne pas en parler, Christian Sainte, la menace terroriste, des attentats qui peuvent survenir à tout moment. Qu'est-ce que ça a changé dans le fonctionnement de la police et du 36 au quotidien?
Tout simplement, 2015 a été une année charnière, vous le savez, catastrophique. On a appris aussi au travers de ces événements dramatiques. Et depuis, nous sommes, l'arme au pied tous les jours. Nous savons qu'un coup dur peut nous tomber dessus et nous sommes tous prêts à œuvrer. On a revu nos modes de fonctionnement, nos protocoles d'intervention. On a essayé toujours d'être plus performants, plus rapides. Et depuis, on vit avec cette menace. On anticipe, on démantèle des réseaux, on travaille avec les directions du renseignement. Mais on sait aussi qu'à un moment ou à un autre, le téléphone va sonner. Il faudra tous se précipiter.
Avec là-bas. Des policiers qui sont dédiés à ce type d'attaque d'attentats.
Absolument. Notamment la section antiterroriste est en première ligne. La BRI également.
Combien sont-ils ?
Ils sont plus d'une cinquantaine à la SAT actuellement et la BRI est montée à plus de 120 pour pouvoir intervenir rapidement au niveau de l'intervention.
Merci Christian Sainte, directeur de la PJ de Paris. Frédéric Conry, aujourd'hui chef de la brigade d'exécution des décisions de justice, et Richard Marlet, retraité de la police.
C'est exactement ça.
Voilà, exactement ça, et dont je cite l'un dernier livre, « Les experts entrent en scène, la révolution de la science criminelle », c'est paru il y a quelques semaines, je crois.
Hein, c'est récent, début juin.
Au First, chez First. Je cite aussi un autre livre à vous recommander, Patricia Touranchot, « Le 36, histoire de poulet, d'indic et de tueur en série ». C'est coédité par Seuil et Les Jours et...
Excellent livre, en fait, et pas seulement parce que je suis le premier chapitre.
Non, effectivement, ça commence par votre départ, votre pot de départ à la retraite, Richard Marlès, cet excellent livre de Patricia Touranchot. Merci pour elle. Dans un instant, on va retrouver ici, toujours au 36, Alex Vizorek.